Chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Après cet été torride et cette rentrée qui l'est presque autant, il doit faire 27 degrés, je crois, chez nous à Paris, ici, j'ai le plaisir de recevoir deux éminents juristes que d'ailleurs beaucoup de choses rapprochent. Ce sont deux professeurs de droit. Alors, d'abord, évidemment, faisons honneur au professeur Bertrand Saint-Germain, puisque nous allons le recevoir sur la foi de son livre qu'il a publié cette année, qui s'appelle « La République des juges contre la nation », aux éditions du Verbe Haut. Je vous montre la maquette, enfin, c'est pas la maquette, c'est carrément la couverture du livre, La République des juges contre la nation. Nous allons parler donc de ce travail, mais d'une manière plus générale du problème qui est énoncé, exposé, cette émission étant en partenariat avec l'ICEP, comme vous le savez, et la grande nouvelle aujourd'hui, c'est que l'ICEP a déménagé, elle est à Paris, dans un très beau quartier pyramide. Allez sur le site de l'ICEP, parce que bien entendu la rentrée a lieu le mois prochain, et peut-être que les jeunes qui sont encore en recherche de quelque chose peuvent contacter cette école qui est désormais, on peut dire, la dernière école de sciences politiques qui fasse encore de la science politique et non pas des blocages de campus pour la libération d'une Palestine que la plupart des bloqueurs seraient bien incapables de situer sur une carte. Enfin, c'est devenu un porte-drapeau, c'est un peu l'équivalent du drapeau rouge autrefois. Maintenant, c'est le drapeau de la Palestine, et cette Palestine, elle est mangée à toutes les sauces. Alors, si vous voulez faire des études de sciences politiques, eh bien, profitez-en, parce que Paris, c'est quand même un peu plus central. Lyon est très très handicapé par son extrême gauche islamo-gauchiste et sa mairie, puisque même les vidéos municipales sont à la disposition des groupuscules islamo-gauchistes. Donc c'est très compliqué. On est beaucoup mieux à Paris de cette façon-là. Allez sur le site et prenez contact avec l'ICEP, Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui est votre Sciences Po, la vraie, l'authentique Sciences Po en France. Donc, nous recevons l'auteur de La République des juges contre la nation, le professeur Bertrand Saint-Germain. Et pour m'aider à le recevoir, j'ai demandé l'aide d'un professeur que vous connaissez bien, autre professeur de droit, le professeur Coronel de Boissezon, qui n'est pas colonel encore que dans la réserve, peut-être l'avez-vous été, monsieur le professeur, puisque vous étiez officier de réserve, donc peut-être êtes-vous monté en grade avec l'âge, voilà, c'est vrai, colonel en espagnol veut dire colonel, donc ça a été un peu une petite erreur de transcription, ça n'a évidemment aucune importance, mais malheureusement le professeur Coronel de Boissezon, que vous voyez quand même à l'écran, est tombé en panne sur la route, une automobile qui l'a trahi, et donc il n'a pas pu se rendre à Paris, et il est en visioconférence, mais je vois que Radio Courtoisie se débrouille très très bien, parce que là, il y a même derrière lui le panneau Radio Courtoisie, c'est remarquable, vraiment très bien. Donc tout va très bien se passer avec mes deux invités qui partagent autre chose, disais-je. Ils ne sont pas seulement deux anciens professeurs de droit, on l'est pour la vie, mais ils ont été tous les deux victimes de l'université républicaine. Tout le monde connaît évidemment l'histoire du professeur Coronel de Boissezon à Montpellier, mais le professeur Bertrand Saint-Germain n'est pas en reste avec l'université, c'était ou de Metz ou quelque chose comme ça dans l'Est, enfin bon, il y avait, c'est pareil, il sait ce que c'est que la persécution universitaire. Le thème, c'est donc d'abord merci à vous deux de participer à cette émission. Le thème, c'est donc la juristocratie contre la nation. On a déjà un peu abordé cette question, le professeur Cornel de Boissezon et moi-même, dans plusieurs émissions. On avait fait même plusieurs. C'était carrément un cours magnifique dispensé par le professeur Cornel de Boissezon. Mais là, on profite du fait que vous ayez publié ce livre pour approfondir ou revenir d'ailleurs sur les choses. On parle de république des juges et de gouvernement des juges. De quoi parlons-nous exactement, monsieur le professeur ?
Bonjour, bonjour à tous, merci de votre invitation. Et puis, cette date pour enregistrer et diffuser l'émission est parfaite, puisque aujourd'hui commencent les oraux du concours d'entrée à l'école de la magistrature.
Donc c'est
une belle date pour réfléchir à la place que prend ce tiers-pouvoir au sein de nos institutions.
Très intéressant. Donc, je rappelle à nos éditeurs que l'École nationale de la magistrature, l'ENM, est située à Bordeaux et c'est cette école qui forme la magistrature contemporaine. Est-il besoin d'en dire plus ? Mais on reviendra un peu sur cette question. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de gouvernement des juges et de république des juges ?
Alors, dans ces mots, il y en a un troisième, nous l'évoquions tout à l'heure, qui est souvent utilisé, c'est celui de coup d'état des juges. Alors, la formule du gouvernement des juges est ancienne, elle est connue depuis bientôt un siècle chez les juristes. Le coup d'état des juges, c'est un peu plus récent, cela a été popularisé par Éric Zemmour à la fin du XXe siècle. Mais ces deux formules, finalement, ont l'inconvénient, surtout la notion de coup d'état des juges, d'être finalement plus médiatique que réellement scientifique. Parler d'un coup d'État, ça supposerait une organisation, des divisions, une hiérarchie, une structure et un plan visant à prendre le pouvoir.
Ouais.
Or, bien évidemment, cela n'existe pas. Il n'y a pas des colloques de juges qui réfléchiraient en secret aux moyens de faire avancer les choses. Même si, bien évidemment, tel juge, au pluriel éventuellement, peuvent se dire qu'ils profiteront d'une affaire donnée pour faire avancer telle ou telle cause. Certains s'en sont réclamés, notamment du côté du Conseil d'État. On se souvient qu'au moment de l'arrêt Niccolo, qui a été pour le Conseil d'État le moyen de reconnaître la suprématie, la supériorité du droit de l'Union européenne sur le droit français.
Est-ce que vous pouvez le dater ?
On est en 1989.
Ouais.
Le vice-président du Conseil d'État cherchait un arrêt, cherchait une affaire qui lui permettrait de réaliser ce que la Cour de cassation avait déjà fait depuis quelques années, c'est-à-dire d'affirmer cette prééminence du droit européen. Donc oui, il y a des fois des choses qui sont préparées, mais on ne saurait parler de coup d'État.
Mmh.
L'idée de gouvernement des juges est-elle aussi intéressante, avec cette réserve que, évidemment, il y a bien un gouvernement au sens où on va prendre des décisions qui ont des effets, mais on n'a pas cette notion du gouvernement qui est celle de préparer en amont un plan destiné à être mis en œuvre. Alors, c'est pour ça que j'ai préféré parler de République des juges, parce que cela fait référence à la res publica, le bien commun, cette chose commune, finalement cette chose commune qui est accaparée par quelques-uns. Accaparé par une caste oligarchique qui va finalement se servir de sa position, des pouvoirs qui lui sont donnés pour finalement orienter la politique et l'esprit national. Voilà. Et c'est pour ça que cette idée de République des juges, c'est finalement montrer comment le bien commun, au lieu d'être le fruit de la libre délibération sur le forum, eh bien, comment ce bien commun est finalement canalisé par les nantis de la juristocratie. Voilà.
Oui, donc je suggère que l'on divise notre émission, qui va durer une heure et demie, un peu moins maintenant, en trois parties. De quoi s'agit-il ? Quelles sont les trois causes Alors, je suis désolé de faire un plan en trois parties, parce que c'est pas tout à fait juridique. En général, les juristes font deux parties, mais enfin, nous, en philosophie, c'est trois parties. Voilà, c'est saint Thomas d'Aquin. Bon, et donc, cela dit, votre livre lui-même est en trois parties. Donc, on peut y aller quand même. Donc, de quoi s'agit-il? Parce que vous dites qu'il y a des trois causes sur lesquelles on va revenir, technique, sociologique et politique. Ensuite, en une deuxième partie, ce sera... Que signifie le fait de juger contre la nation? Et puis, en troisième partie, que faire? Parce qu'on va essayer de proposer, de faire d'être une force de proposition, surtout à en cette période de campagne électorale, pour la présidence de la République, ça n'est pas rien. On terminera donc par cette espèce de partie, disons, positive, au sens où elle cherche une solution à cette crise très grave. Nous savons que l'un des principaux problèmes que traverse la République française aujourd'hui, c'est sa magistrature, et son comportement, son recrutement, etc. Donc je vous suggère que, parce que vous dites dans votre livre qu'il s'agit d'une domination politique résultant d'un état de fait qui a trois causes, techniques, sociologiques et politiques. Est-ce qu'on peut commencer par la cause technique? Ce que vous appelez,
oui,
une technique.
Techniquement, le juge se trouve saisi par les justiciables et justiciables qui vont lui poser une question. Or, il est fait obligation au juge de trancher la question qui lui est donnée. Donc, de ce point de vue-là, le juge se trouve utilisé, volens nolens, qu'il le veuille ou non, par des groupuscules, par des agitateurs, par des forces politiques éventuellement, qui vont utiliser sa place, son rôle, pour lui demander de trancher des questions de nature politique.
D'accord,
et ouais. Ici, le juge est dans l'obligation de trancher. Et l'avantage, ceux qui utilisent le juge comme cela, c'est que cela se fait en fonction d'un agenda que seul détermine. En principe, si on veut faire trancher une question politique, cela suppose que la représentation nationale s'en saisisse, qu'une proposition de loi soit déposée, éventuellement inscrite à l'ordre du jour, débattue, discutée, et peut-être demain, la question sera abordée. En revanche, par une question directe posée à un juge, on peut provoquer une réponse. Et une réponse dont on pourra se servir politiquement.
Voilà, c'est déjà une réponse politique. Donc c'est une manière de contourner la représentation nationale, donc le peuple lui-même, en passant par la justice,
voilà.
Par la magistrature.
Si l'on prend l'exemple américain qui est assez parlant de ce point de vue, les dynamiques en faveur de l'adoption de réglementations ou de lois permettant le mariage homosexuel ne se sont pas faites d'abord par les élus dans les congrès des différents États. On a des personnes simplement militantes qui ont demandé à se marier, auxquelles il a été répondu que cela n'était pas possible parce qu'ils étaient du même sexe, et ces justiciables-là qui étaient militants, eh bien, sont allés devant le juge pour expliquer que, au nom de l'égalité, d'accord, ils avaient le droit de se marier. Et ici, cela court-circuite toutes les démarches parlementaires, toutes les procédures, et cela met le juge en situation de devoir trancher un conflit qui, en définitive, est de nature éminemment politique.
Donc le juge se fait législateur, ce qui est excessivement grave, évidemment, puisqu'il n'y a plus d'autonomie. La loi et la justice.
Mais rendons-lui justice, le juge est dans l'obligation de trancher. Il ne peut pas rester sans voix. Et même lorsque la question n'est pas directement politicienne, comme dans l'exemple que je viens de donner. Nous avions eu, il y a quelques années, c'était au début des années 1980, c'est ainsi qu'en France, le juge a tranché et interdit ce qu'on appelait pas encore la gestation pour autrui. C'était les mères porteuses, on appelait ça comme ça. Et comment cela s'est-il passé? De manière assez simple, un contrat de mère porteuse avait été fait, reconnu devant notaire, entre des parents et une mère porteuse, contrat par lequel tous les mois, les parents, le couple, donnaient de l'argent à la mère porteuse et il était convenu qu'après l'accouchement, celle-ci donne l'enfant au couple. Et un jour, très vite, l'une de ces mères porteuses a voulu garder l'enfant, arguant qu'elle en était la mère, ce qui était absolument certain aussi.
Mmh.
Eh bien, là, le couple est allé devant le juge en lui demandant de faire exécuter le contrat, contrat qui prévoyait la remise de l'enfant. Et c'est ainsi qu'en 1985, la chose a été tranchée, si je me souviens bien, en 1989, le juge s'est trouvé dans l'obligation de trancher cette question.
Mais il ne pouvait pas renvoyer à la loi en disant « tant que la loi ne prévoit rien, je ne peux pas agir ». Il s'en est référé aux fameux droits de l'homme qui ont brisé la loi.
Mais la loi lui-même l'oblige à trancher. Et la loi sur cette question est intervenue en 1993.
D'accord.
Il fallait faire quelque chose. Donc le juge a considéré que dans cette affaire, que le contrat n'était pas valide et que la mère gardait l'enfant. Mais effectivement, donc, le point de vue technique, on ne peut pas tout reprocher au juge. On peut reprocher aussi des choses au juge et beaucoup aux politiques. Le juge se trouve dans l'obligation de trancher.
Ça,
c'est un déni de justice, il ne le fait pas.
Alors qu'il doit trancher sur aucune base, en l'occurrence, avec l'exemple que vous citez, il est dans le vide légal. Et ce qui fait que s'il avait tranché, par exemple, en faveur du couple homosexuel, là, qui réclame, ou que pas forcément homosexuel d'ailleurs,
non,
gestation
non.
pour autrui, surtout à l'époque où il n'y avait pas de mariage homosexuel. Donc, s'il avait tranché en leur faveur, il créait. Il se faisait créateur de loi, enfin il agissait à la place du législateur.
Sans la légitimité du législateur, alors, c'est pas exactement un vide juridique, en fait c'était la question, est-ce que le contrat était légal, auquel cas cela aboutissait à donner l'enfant au couple, ou est-ce qu'il considérait que ce contrat n'était pas légal, donc c'est d'apparence une simple question de droit. Et en considérant qu'il n'était pas légal, cela conduisait à rendre l'enfant à sa mère. Mais derrière la question purement technique de la légalité du contrat, la question de fond était bien celle de la légalité des mères porteuses.
Oui, voilà, c'est
voilà.
Ça.
Mais la loi est arrivée bien plus tard. Donc, on ne peut pas tout reprocher au juge. Et ici, cette question des mères porteuses se posait finalement en arrière-fond depuis 1979, c'est-à-dire depuis la première fécondation in vitro, qui rendait possible techniquement ce que l'on verra par la suite.
Oui, d'accord.
Donc, techniquement, le juge est à même de trancher rapidement des questions. Voilà. C'est la première cause de la prééminence du juge, elle est là.
Mais des questions qui, en principe, devraient relever de la souveraineté populaire incarnée dans la représentation populaire.
Oui, mais dans notre système de loi, alors, nous en reparlerons sans doute, il y avait, à l'époque de la Révolution, une procédure qui existait qui permettait au juge de sursoir à trancher en appelant le législateur pour que celui-ci tranche cette question de droit nouvelle.
Oui.
Cela existait un moment au cours de la Révolution, on y a mis fin ensuite, mais à l'heure actuelle, le juge est dans l'obligation de trancher.
Oui, parce que, on dit ça pour les auditeurs, la justice était beaucoup plus associée à la loi avec la Révolution française que plus tard où le juge a disposé de la possibilité d'émettre un jugement en équité. Si on en revient, disons, à la mentalité de la Révolution française, on arrive à Jean Valjean, vaut 2 ans de bagne, Jean Valjean a volé, Jean Valjean aura 2 ans de bagne. C'est le fameux...
Les peines minimales.
C'est ça, minimal. Donc c'est pour ça qu'on arrivait à des choses complètement aberrantes. Mais professeur Coronel de Boissezon, on vous fasse parler un peu, que vous ne soyez pas comme ça, vous reposez pendant que nous discutons. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire là-dessus, sur cette espèce de création de la loi, en somme, enfin, par le juge ? Ce qui est normalement, évidemment, pas possible.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui, on vous entend.
Parfait. Il y a une grande actualité à la chose, puisque sur... l'exemple que vient de donner mon collègue Bertrand Saint-Germain, il n'a pas échappé à nos auditeurs qu'en matière de GPA, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 juillet 2026, reconnaissant pour un couple homosexuel la possibilité de faire enregistrer à l'état civil un enfant né à l'étranger. Or, la loi qui avait fini en 1993 après Le contentieux dont a parlé Bertrand avait tranché et continue aujourd'hui de trancher contre la possibilité de la GEPA dans le droit national français. Donc, tout récemment, vous voyez, il y a 2 mois, la Cour suprême de l'ordre judiciaire française est contrevenue à la loi. Donc, le troisième pouvoir est contrevenu frontalement au premier pouvoir, qui est le pouvoir législatif. Donc, effectivement, un aréopage de juges est allé à l'encontre de la volonté du peuple français, en tout cas telle qu'elle a été représentée par les députés qui ont fait la loi. Donc, c'est extrêmement actuel et c'est extrêmement choquant.
Alors, y a-t-il un moyen ? Existerait-il ? Je vous interromps, excusez-moi. Mais existerait-il un moyen d'empêcher cette espèce de... Alors là, on peut parler de coup d'État, je ne sais pas quoi, enfin, d'usurpation de pouvoir par le juge.
Alors ici, on notera bien que la Cour de cassation a bien fait attention à ne pas contester la loi. La GPA reste interdite. Simplement, l'hypocrisie juridique, parce que le droit, finalement, est une étude à former des hypocrites, à utiliser des arguments là où il ne faudrait pas les mettre. Le juge donne simplement des effets à une GPA produite à l'étranger, parce qu'il faut protéger les droits de l'enfant. Voilà, on ne présente pas ça comme un viol de la réglementation française. La GPA reste interdite. Donc en fait, elle est interdite. Mais en fait, si vous en faites une, on va lui donner des effets. Finalement, on continue d'interdire le vol, mais vous avez le droit d'utiliser l'argent du vol. C'est un peu ça.
Ouais,
on voit bien toute la limite de l'argumentation.
C'est extraordinaire, ça. Alors là, oui, allez-y, professeur.
On pourra noter que ce scandale, ce vol de la souveraineté, n'est possible que, comme vient de le rappeler mon collègue, par la référence à un ensemble de droits individuels, donc de droits subjectifs, qui contreviennent aux droits objectifs. Et pour le dire plus clairement, lorsqu'on parle de protection de l'enfant, d'intérêt de l'enfant, etc., on entre dans le catalogue des droits individuels qui nous révèle dès l'abord que l'état de droit, c'est d'abord des états de droit, comme le disait Guy Carcassonne, et que donc, en l'occurrence, là, l'état de droit, ce sont les droits de l'enfant, en arrière-plan les droits des individus que sont les parents, contre les droits du souverain, en l'occurrence, au terme de l'article 3 de notre Constitution, du souverain peuple. Donc, en fait, il est la possibilité d'aller aussi frontalement contre la loi, donc contre le souverain, donc contre le peuple, ce sont les droits de l'homme.
On en revient toujours à la même question.
Les droits de l'homme sont frontalement opposés aux droits du peuple.
Voilà, on avait beaucoup parlé de ça dans plusieurs émissions, cher professeur, où vous aviez expliqué de façon très claire comment, en effet, ces droits de l'homme avaient fini par empêcher, priver le politique de prendre d'exercer sa souveraineté, tout simplement, au nom de quelque chose. Ça rappelle d'ailleurs, mais on y reviendra tout à l'heure, ça rappelle ce débat à la dernière présidentielle entre le président sortant, qui était donc Monsieur Macron, tellement aimé du peuple qu'il a été très largement réélu, et son adversaire, qui était Marine Le Pen. Marine Le Pen a parlé de la souveraineté populaire, et le président de la République, garant de la Constitution, avait dit non, au-dessus de la souveraineté populaire, il y a la Constitution. Autrement dit, on a un édifice comme ça, qui a été finalement divinisé, et le peuple n'a plus le droit d'intervenir lui-même, de modifier les choses. En fait, il est privé de sa souveraineté, surtout, et ça vous l'aviez très bien expliqué, cher professeur, à un certain moment, une constitution s'adosse, s'appuie à une déclaration universelle des droits de l'homme, je ne sais quoi, et à ce moment-là, évidemment, cette constitution ne peut plus rien faire d'autre, et ces droits de l'homme étant entre les mains de ce pouvoir judiciaire, qu'on est supposé appeler autorité judiciaire, en réalité c'est vraiment le pouvoir judiciaire de plus en plus, eh bien en fait le peuple se voit privé de sa, de sa, disons, de son pouvoir, quoi.
Oui, et
de sa souveraineté.
Ce gouvernement, cette République des juges, donc elle se forme d'abord techniquement par ce pouvoir qui est donné, et qu'en définitive, il est difficile d'éviter. Puisque finalement, une loi n'est claire que pour celui qui l'a écrite, et le juge, c'est lui qui va déterminer au cas concret qui lui est soumis, quelles règles s'appliquent et surtout comment elles s'appliquent. Et c'est ce que l'on. Et ça, cela fonde techniquement le pouvoir du juge, qu'il est impossible en quelque sorte d'éviter, puisque le juge va bien être saisi d'une affaire qu'il devra trancher.
Donc on peut parler d'un pouvoir arbitraire.
Mais qui lui est donné par la loi.
Ouais, c'est ça.
Qui lui est donné
c'est
par la loi.
C'est ça qui est vicieux,
voilà.
Alors, le piège.
Ça,
là.
Donc techniquement, ici, tant qu'... Alors, on y reviendra sans doute, mais il faut garder en mémoire que ce n'est qu'un pouvoir d'avant-dernier mot. Il y a toujours la possibilité dans le droit de reprendre la main au-dessus de la décision du juge.
Alors ça, c'est à la fin, c'est ça, que voilà. Faire, comme disait le camarade Lénine.
Voilà, mais le premier point est cette cause technique du droit qui, finalement, rend nécessaire l'intervention de quelqu'un pour dire comment doit être tranchée une question. Et puis, cette mainmise de la République des juges, aujourd'hui, elle est aussi... sociologique.
Oui, alors c'est là, vous voilà. Dites dans votre livre qu'il y a aussi le problème de la professionnalisation, déjà.
Alors, la professionnalisation, tout à fait, elle fait une caste. Elle fait une caste peu nombreuse. On n'a pas beaucoup plus de juges aujourd'hui qu'au début du XXe siècle. Un petit peu plus, leur chiffre a augmenté depuis 5 ans.
Ce qui explique en partie, excusez-moi, l'encombrement des tribunaux.
Cela l'explique en partie, avec une endogamie très forte. Et puis, sociologiquement, on a affaire à des juges qui sont essentiellement issus, Bourdieu n'a pas tort surtout, mais des classes dominantes, qui sont essentiellement issus, parce que,
bien sûr,
nous le disions tout à l'heure, les oraux de l'école de la magistrature commencent aujourd'hui. Près des trois quarts des candidats qui seront reçus dans quelques semaines ne sont pas passés par les facultés de droit, mais sont issus de formations en sciences politiques, et rarement l'ICEP.
Malheureusement, eh oui, malheureusement.
Voilà, et donc, ils sont très jeunes, on est à 25 ans de moyenne d'âge à l'entrée, issus de formations non juridiques. Alors, certains deviendront très bons, ce ne sont pas nécessairement de mauvais étudiants. Et puis, des formations dans lesquelles le prisme idéologique n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui.
Oui. S'agissant de la classe sociale, Bourdieu n'a rien inventé. Hein. Trasimac, déjà au 5e siècle avant notre ère, parlait de cela, hein, et il nous disait que la loi est faite par les classes dominantes et par conséquent, elle n'est jamais que le reflet d'un rapport de domination. Alors, il disait pas domination de classe, mais ça revient strictement au même. Mais ce qui est plus embêtant, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'ils sont passés d'abord par un moule idéologique terrible. Qui tient l'école tient les esprits, les mentalités.
Et cela se traduit ensuite par la domination politique,
voilà.
C'est-à-dire que ces gens-là sont persuadés de savoir mieux que le législateur, mieux le peuple, ce qui doit être. Et c'est ce que font les juges, finalement, en maltraitant la loi. Jean-Luc Coronel le rappelait avec la décision d'Assemblée plénière de la Cour de cassation, pour finalement permettre de faire le contraire de ce que la loi voulait. Parce que maintenir l'interdiction de la GPA en France, tout en lui donnant des effets, moi, si je suis avocat conseil dans une affaire comme ça, je dirais à mes clients, écoutez, c'est très simple, allez fabriquer et acheter votre enfant à l'étranger.
Oui, bien sûr.
Et de toute façon, après, ce sera pareil. Alors même que, rappelons que ces enfants nés par GPA à l'étranger bénéficient déjà d'une identité d'un état civil. Celui du pays où ils sont nés.
Uh-huh.
Voilà. Donc ici, l'outil technique permet à une minorité qui est idéologiquement formée ou déformée de prendre des positions de nature politique et de juger contre la nation au nom du droit. Typiquement, et on le voit dans tous les domaines politiques, un référendum, au dire de certains, en France, serait interdit parce que la Constitution ne le permet pas. De Gaulle avait bien montré le contraire.
Mais oui, bien sûr. Oui.
Surtout, ce que la Constitution, interprétée par certains juges, ne permet pas.
C'est ça, ouais. Et disons encore deux mots donc, de cette deuxième cause, disons, qui est la cause sociologique. En parlant un peu du profil des magistrats, vous venez d'en parler, mais c'est donc une classe bourgeoise, dirait-on, dans le langage, disons, socialiste. Ce sont des gens souvent issus de Sciences Po, plus que des facs de droit.
Tout à fait.
Et puis, qui ne sont pas indifférents au wokisme, enfin, tout cela.
C'est l'environnement culturel dans lequel ils baignent dans les instituts d'études politiques.
Ouais, c'est ça.
On le voit au moment du choix des promotions parmi les élèves de l'école de la magistrature. L'avant-dernière promotion avait longuement hésité, avait déjà proposé Gaza comme nom de promotion.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
Pour finalement choisir, ils avaient fini en finale, le nom du procureur de la Cour pénale internationale qui avait eu le bon goût d'inculper, peut-être à raison d'ailleurs, mais Benjamin Netanyahou.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est finalement le nom d'un magistrat français qui avait été choisi. Mais cette lutte au sommet est extrêmement symbolique.
En somme, c'est un parti politique qui ne dit pas son nom. Encore qu'il y a un syndicat de la magistrature, ça c'est déjà extraordinaire que les magistrats puissent se syndiquer, mais bon, ça n'a pas toujours été vrai.
Oui.
Et effectivement, ça leur donne une force considérable, ça, une force politique considérable.
Oui, on considère qu'une force qui dépasse 15% au sein d'une institution est en situation d'influer sur le fonctionnement de cette institution. Le syndicat de la magistrature, depuis une trentaine d'années, a des scores qui vont du quart au tiers des voix, et de manière encore plus importante au sein des magistrats du siège, c'est-à-dire, on distingue parmi les magistrats, oui, je vous le rappelle, la magistrature debout, c'est-à-dire les procureurs, les substituts,
le
les avocats généraux, le parquet, ceux qui réclament, ceux qui exposent la situation, et puis ensuite il y a la magistrature assise, donc les juges proprement dit, qui eux vont trancher l'affaire. Or, on sait, on a le détail des résultats aux élections professionnelles, le syndicat de la magistrature est plus faible du côté du parquet, et il dépasse assez souvent, atteint ou dépasse les 40% du côté des magistrats du siège.
Et donc, autrement dit, ceux qui décident, ceux qui, en dernier ressort, sont plus idéologisés que les autres.
Bien sûr. D'autant qu'il faut savoir également que les carrières se font au sein de la commission d'avancement où siègent les syndicats. Donc, pour grimper dans la magistrature, il faut bien sûr une carrière correcte, mais il faut également passer sous les fourches codines syndicales.
La troisième cause, c'était donc la cause politique. On en a déjà dit un peu. J'ai parlé du débat. Personne n'a fait attention à ça parce que ce débat avait duré en longueur. C'était entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce que vous appelez l'impossibilisme, professeur Coronel de Boissezon, l'impossibilisme des politiques, c'est-à-dire le fait que les politiques renoncent à agir, puisque en fait la Constitution est plus haute que le peuple et les cours, l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme sont plus hautes que toute décision populaire. Au point d'ailleurs qu'on s'est inquiété, je ne sais pas si on va y arriver, je ne crois pas. Il y a quand même un fait accompli. On s'est inquiété de savoir si le parti allemand qui vient de triompher hier en Saxe-Anhalt, parce qu'on dit la Saxe, sa Saxe, c'est très grand, c'est une des trois Saxes, la Saxe-Anhalt, on s'est demandé si une institution au-dessus du peuple n'allait pas peut-être abolir l'élection et en tout cas dissoudre, interdire le parti qui a conduit à ce résultat-là. Donc ça, c'est l'aspect politique. Je ne pense pas qu'on puisse ajouter quelque chose, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, professeur Coronel de Boissezon.
Alors, peut-être dire à nos auditeurs et spectateurs, s'ils veulent vérifier ce propos d'Emmanuel Macron, ils peuvent le faire en regardant donc le débat télévisé de 2022, c'est à 2h40 et 10 secondes.
De l'émission.
À 2h40 et 10 secondes.
Ouais, tout le monde était couché.
Voilà, exactement. et c'est le moment où Marine Le Pen dit à Emmanuel Macron, mais enfin, Monsieur Macron, en France, le souverain, c'est le peuple. Et Emmanuel Macron lui répond, non, Madame Le Pen, c'est la Constitution.
C'est ça, c'est terrible.
Il a l'index pointé en l'air, donc il montre que c'est au-dessus du peuple. Et c'est d'ailleurs très symbolique, parce que cet index pointé en l'air, c'est le souverain, selon Monsieur Macron, il est en l'air. Il est sans racine, il est sans légitimité, et c'est une abstraction, en fait. Donc, c'est un moment, c'est une sorte d'aveu absolument extraordinaire qui effectivement montre où en est aujourd'hui le long mouvement de la modernité libérale qu'on appelait notamment le constitutionnalisme. Et tout a commencé comme ça, hein, lorsque les révolutionnaires français font le premier coup d'État de droit, d'une certaine façon, le premier coup d'État institutionnel, au lieu d'être purement insurrectionnel, qui est le 17 juin 1789, en se constituant Assemblée nationale, alors que personne ne leur a rien demandé. Et lorsqu'ils font le fameux serment du jeu de pomme du 20 juin 1789, trois jours plus tard, ils disent qu'il faut qu'il reste une Assemblée jusqu'à ce qu'ils aient donné une constitution à la France.
Oui, oui.
Bon, mais la France avait une constitution qui s'était forgé depuis 13 siècles, depuis le baptême de Clovis. Et c'était les lois fondamentales du royaume. Donc, en fait, vous voyez cette prétention initiale du libéralisme, telle qu'on le voit à son fondement politique en France, c'est-à-dire une usurpation, un mensonge initial, où un groupe d'hommes qui savent, et nul doute que Bertrand Saint-Germain va parler de cet aspect que l'on appelle en termes un peu savants, sinon cuistres, l'épistocratie, le pouvoir de ceux qui savent, là, un peu plus de 400 bourgeois français disent qu'ils savent ce qui est bon pour la France et substituent leur nation de sachants au peuple concret français. Et on a appelé d'abord ça le constitutionnalisme. Et aujourd'hui, en fait, cette constitutionnalisation du droit, c'est-à-dire l'idée qu'un État n'est légitime que s'il a une constitution issue de ce qu'on appelle aujourd'hui le cercle de la raison, la rationalité des lumières, et que ce qui compte le plus est ce corpus de principes supposés définitifs parce que rationnellement fixés, moyennant quoi c'est au moment où on a commencé à faire ce genre de constitution supposée rationnelle que nous avons enchaîné en un siècle et demi, 15 constitutions.
Oui, c'est vrai.
Après en avoir eu une stable pendant des siècles. Et ce phénomène de constitutionnalisation des droits, en fait, gagne l'ensemble des branches du droit. Il a gagné le droit judiciaire, le droit civil, à travers un certain nombre d'erreurs très, très coupables, comme par exemple, à mes yeux, la QPC, qui introduit des éléments constitutionnels dans le processus judiciaire, on pourra en reparler. Mais c'est vrai aussi, d'ailleurs, de la vie internationale.
Ne parlez pas à l'acronyme, la question préalable.
La question préalable de constitutionnalité, on
oui,
en reparlera
ça,
peut-être.
Ouais.
Mais je veux dire par là, ce qui est terrible, on va reparler, je pense, du Conseil constitutionnel, également des cours comme, on vient de parler de la Reine Colo de 1989, comme le Conseil d'État, Cour suprême administrative, mais aussi la Cour de cassation, Cour suprême judiciaire, mais aussi la vie internationale. Les spécialistes de droit international parlent aujourd'hui d'une constitutionnalisation du droit international, avec l'idée qu'il y aurait des principes supranationaux, que donc on pourrait par exemple avoir une cour pénale internationale, ce qui de mon point de vue est un oxymore.
Bien sûr.
Le droit pénal, c'est un droit qui défend les valeurs centrales de cohésion d'une société. Et donc ce phénomène est général. Et son produit, effectivement, nous en reparlerons peut-être. Tel qu'il peut être désigné de la façon la plus globale, c'est l'impossibilisme. Alors ce terme, il faut rendre à César ce qui est à César, a été forgé par Jarosław Kaczyński, qui a été premier ministre polonais, ça reste le dirigeant du PiS, le Parti Droit et Justice polonais, et il avait parlé le premier d'impossibilisme légal à propos de ce supposé état de droit qui non seulement n'est que d'état de droit individuel, mais n'est que l'état du droit tel que les avancées libérales l'ont fixé justement autour de la garantie des droits individuels et qui ne serait plus modifiable. Voilà. Et ce terme a été repris par Bruno Retailleau, on s'en souvient assez récemment, en 2025. Et Bruno Retailleau, du reste, pour tenter d'exister dans la campagne électorale, vient de faire à nouveau référence à la nécessité de sortir de l'impossibilisme légal en faisant des propositions il y a quelques jours sur lesquelles nous reviendrons peut-être.
Bah, en troisième partie, oui.
Voilà, la conscience, si vous voulez, de ce que aujourd'hui le salut des peuples est sacrifié à la garantie des droits de l'homme prend dans l'ensemble de l'Europe et aux États-Unis la prise de conscience est réelle, heureusement.
Ouais. C'est comme ça que nous ne sommes plus gouvernés que par des adjectifs. Dès qu'il se passe un événement politique qui ne convient pas à la doxa dominante, alors on est réduit à un adjectif. On a bien vu ça avec le triomphe électoral de l'AFD, oui. Où le fond n'est pas du tout abordé, la guerre en Ukraine, l'épuisement économique de l'Allemagne qui s'est privée elle-même de son accès aux sources énergétiques, etc. On n'est que dans les adjectifs, les nazis, les néo-nazis, les...
Oui.
Et bon. On arrive même à des aberrations. J'ai entendu ce matin, je crois, un journaliste parler du triomphe des néo-nazis en 1933.
Et on peut ajouter ce qu'a dit le professeur Coronel de Boissezon, c'est que à cet impossibilisme s'ajoute le fait que cette constitution, cet état de droit, en fait, leur contenu, qui n'a jamais été déterminé par quiconque, en fait, se retrouve interprété par ces mêmes juges qui, grâce à leur prééminence technique, finalement, ont tout loisir d'utiliser leurs considérations sociologiques pour des manœuvres politiques. Et les trois courants se rejoignent dans une déferlante qui emporte tout sur son passage.
Oui, en somme, il y a un conflit d'intérêts, quoi.
Évidemment, et parce que finalement, lorsqu'on dit Marine Le Pen ne pourrait pas réviser la Constitution parce que la Constitution l'interdit, non, la Constitution ne l'interdit pas d'une part.
Il y a un article qui le prévoit, qui me le disait.
En tout cas, qui peut être interprété de manière à le permettre, alors que ces mêmes interprètes, donc ces juges constitutionnels ici, vont dire non, cela ne le permet pas. Au nom de l'état de droit, c'est-à-dire au nom du gouvernement par le droit, de la démocratie procédurale, ou plus exactement de leur interprétation de la démocratie procédurale, qui n'a finalement d'autre objectif que de maintenir leur situation de nantis et les intérêts, alors je suis désolé sur Radio Courtoisie de parler peut-être comme un marxiste, mais de défendre leurs intérêts de classe.
Oui, mais enfin, vous savez, tout n'est pas à rejeter chez Marx. Oui.
Je voudrais dire sur ce point, Bertrand a tout à fait raison, et introduire, vous avez parlé de juristocratie au début de l'émission, introduire donc la référence à l'analyse de l'auteur qui avait fait le premier livre portant ce titre, Juristocracy, enfin Towards Juristocracy, c'était Ran Hirschel, un chercheur israélo-canadien, dans un livre de 2004.
Alors, vous traduisez vers la
juristocratie.
Oui, parce que nous sommes dans une radio francophone. Hein, towards fait, juristocracy, c'est vers la juristocratie.
Vers la juristocratie. Je mets un euro dans le petit cochon. Et de Radio Courtoisie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son ouvrage, donc il y a 20 ans, hein, il avait déjà eu le prix de l'Association de sciences politiques américaines, ce qui montrait que en fait, il avait parlé de l'éléphant dans la pièce. Et dans son ouvrage, Ran Hirschel dit que cette juristocratie, cette prise de pouvoir des juges, est un phénomène, est une manœuvre qu'il appelle la préservation hégémonique. La juristocratie est un processus de préservation hégémonique, c'est-à-dire de préservation par le biais du juridique, d'une hégémonie que ces partis, que ces courants politiques, que ces fausses élites, que ces castes ont perdu ou sont en train de perdre du point de vue politique.
D'accord, très bien. Ça leur permet de garder le pouvoir en dépit du peuple.
Exactement.
En fait,
il s'agit de ne pas céder la place.
Voilà. Au nom de règles neutres, impartiales et techniques. bien entendu.
Dont ils ont la garde eux-mêmes, et l'interprétation eux-mêmes.
Voilà.
C'est ça, ouais. C'est très intéressant, ça. Je suggère, car en fait, ça se voit pas tellement, mais ça fait déjà trois quarts d'heure sur l'heure et demie qui nous a laissé que nous parlons, ce qui fera probablement une petite deuxième partie avant d'aller vers le que faire pour essayer de sortir de là. Mais on fera quand même un peu, parce que vous en parlez dans votre livre, je le représente encore, hein, donc la République des juges contre la nation, et comment en sortir, parce que le sous-titre c'est « Et comment en sortir ?». Donc on essaiera de parler de ça. Je suggère qu'un peu avant, on fasse une petite pause musicale pour nous détendre un peu.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors, c'est pas inutile, évidemment, de savoir d'où nous tenons cette corruption, finalement, du droit. Si l'on regarde, si on fait un peu de philosophie du droit, qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que le législateur, qu'est-ce que le juge, tout ça, ça s'enseigne dans la seule école de sciences politiques qui reste en France, évidemment. Je suppose que ça ne s'enseigne pas à Sciences Po Paris, Grenoble ou je ne sais où. Mais en tout cas, ça s'apprend, ça, la différence entre la morale, la loi, la justice et tout ça. Et le droit, qu'est-ce que le droit? Comment est arrivée cette corruption du droit et de la loi dans l'histoire, en particulier, évidemment, ce qui nous intéresse ici en France, qui conduit à juger contre la nation. Juger contre la nation. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, le professeur Coronel de Boissezon parle des parlements du 18e. Mais vous, professeur, vous parlez aussi de ces précédents historiques, de ces racines, disons, historiques.
Oui, parce que nous avons la merveilleuse chance d'avoir un laboratoire qui nous est donné, d'avoir une expérience d'une tentative de gouvernement des juges contre la nation au 18e, on va y revenir. Alors, aujourd'hui, c'est un peu plus simple, c'est finalement le résumé de ce que l'on a dit, c'est-à-dire qu'une caste autoproclamée sachante profite de sa position pour librement interpréter les règles de manière constructive pour leur faire dire autre chose que ce qu'elle permettait au départ. Le professeur Coronel de Boissezon l'a bien rappelé avec cette jurisprudence sur les effets de la GPA et la transcription à l'état civil en France d'un enfant né par GPA à l'étranger. Voilà, on a tout à fait ici une œuvre juristlatrice par laquelle la Cour de cassation impose des effets, donc permet une mesure qui est interdite en France. Alors la mesure reste interdite, mais dès lors qu'on l'a fait à l'étranger, on va lui faire produire des effets en France. Donc, ici, c'est typiquement la situation d'un jurislateur qui, par sa jurisprudence, se fait gouverneur.
Alors, par votre néologisme, vous mélangez législateur et juriste. Hein,
voilà. Ça, le jurislateur. Par la jurisprudence, fait la jurisprudence, loi. Ouais. Mais en fonction des considérations qui sont les siennes. Et c'est-à-dire que, finalement, je parlais de République des juges, la res publica, ce bien qui devrait nous être commun, là, il est commun à ceux qui sont les juges.
Oui.
Et on en a eu l'exemple dans le passé, alors je ne serai pas parole au professeur Coronel pour le dire, mais c'est cette prétention qu'ont pu avoir les parlements, alors dans un contexte historique bien particulier, celui de la réaction nobiliaire, celui de l'exemple anglais. Si aujourd'hui nos classes dominantes ont les yeux rivés sur Washington, nos classes dominantes au XVIIIe avaient les yeux rivés sur Londres. C'est amusant d'ailleurs que les élites françaises ont toujours leur paradis hors de France. Ils ont toujours besoin d'un pouvoir extérieur et d'un lieu qui soit meilleur que la France.
C'est peut-être lié aux guerres de religion, ça.
Et au XVIIIe, on a donc ces parlements dont le rôle joue dans la justice, puisque finalement ils ont un rôle d'enregistrement des lois. Un des rôles des parlements, c'est de dire telle loi est bien valide et elle s'applique dans le ressort de ce parlement. Un parlement, c'est une cour de justice jusqu'à la Révolution.
Il faut préciser pour nos auditeurs qu'il n'y avait pas un parlement, il y avait des parlements provinciaux et le parlement de Paris, évidemment.
C'était le plus grand, une vingtaine de parlements et de cours supérieures. Ces parlements, finalement, vont considérer, mais dans un contexte qui est celui de la guerre du conflit entre entre la haute noblesse et la monarchie, qui vont considérer que non, le roi n'est pas le véritable représentant de la nation, de la France, mais que ce sont eux qui sont les véritables représentants de la nation et qui ont en dépôt, finalement, la garde de ce que doit être la France et sa politique.
C'est de l'aristocratisme typiquement anglais. Les aristocrates contre le roi, en fait.
C'est assez nettement ce que l'on observe. Et il y a dans ce mouvement un conflit très fort au XVIIIe entre ces cours de justice et la monarchie qui va durer des années. Et donc, on a, alors, toute chose égale et toute chose étant égale par ailleurs, les juges d'aujourd'hui ne sont pas évidemment les parlements du XVIIIe, ils ne sont pas désignés de la même façon. Ils n'appartiennent pas la même minorité hier qu'aujourd'hui. Mais il y a cette tension qui montre finalement une volonté d'exercer le pouvoir en totalité à la place de ceux qui en sont les légitimes représentants désignés.
Ce sont des tendances très lourdes qui traversent l'histoire. Peu importe après, effectivement, comment les choses se font, mais elles se font. Et c'est pourquoi j'invite nos éditeurs et téléspectateurs à écouter le balado que j'ai publié aujourd'hui. Vous savez que chaque lundi, je publie un balado, le balado étant un mot probablement forgé par nos amis québécois pour remplacer podcast, puisque nous sommes une radio francophone. Un balado qui explique à nos auditeurs comment nous sommes retomber, surtout avec la chute des idéologies dans ce qu'elles pouvaient présenter de plus primaire, dans une tripartition entre un clergé, une noblesse et un tiers état, le clergé étant la gauche, l'âme de la République, hein, c'est-à-dire la République c'est moi, dit Mélenchon, il a raison, c'est vrai que la République c'est lui, la noblesse républicaine bien entendu, c'est Macron, c'est les privilégiés, etc. Et le tiers état, c'est Le Pen, c'est la France périphérique, le peuple, quoi. Alors le peuple amputé évidemment de la haute bourgeoisie, puisque sous l'ancien régime, la haute bourgeoisie était du tiers état. Donc voilà, j'ai fait un peu ma pub sur le balado qui est sorti aujourd'hui, mais qui rend écho à ce que vous dites. Vous avez parlé dans votre livre de la réforme Maupeou. Peut-être que le professeur Coronel de Boissezon aurait quelque chose à dire, mais c'est-à-dire vraiment vers la fin de l'ancien régime, avec ces précédents, disons, où les juges se dressent alors contre la souveraineté, contre le souverain, en se revendiquant étant les seuls représentants légitimes de cette fameuse nation. Je ne sais pas si... Oui ? Oh là ! Là, pour le coup, on vous entend plus, là, la régie, on n'entend plus...
Est-ce que là, vous m'entendez ?
Ça y est, c'est bon.
Vous m'entendez à nouveau ?
Oui, c'est bon.
Ce qu'on peut dire sur la réforme Maupeou est très importante, effectivement, parce qu'elle est un exemple qu'il faut garder en tête. Nous n'avons pas encore cité, donc je le fais, le mot attribué à François Mitterrand lors de son dernier Conseil des ministres.
Exact.
Vous vous souvenez ?
Mais c'est très important.
Les juges ont tué la monarchie, ils finiront par tuer la République.
Oui.
Il faut se
souvenir de ça.
Absolument. Donc il nous faut un nouveau Maupeou. Et il faut que ceux qui seront appelés à, je l'espère, une alternance politique, et même plus qu'une alternance, une alternative réelle, se souviennent du chancelier Maupeou. Alors, Maupeou avait fait quelque chose, je dis en quelques mots, de très simple, puisque la justice était supposée être déléguée par le roi à ses juges suprêmes qui étaient les parlements. Il lui était en droit loisible de reprendre ce qu'il avait délégué. Alors, c'était un peu compliqué parce que les charges avaient été vendues. La question de la vénalité des charges, qui est une question très complexe, qui choque aujourd'hui, qui avait pourtant, de notre côté, certains aspects positifs, notamment l'aspect d'enracinement local des dynasties de magistrats. Je passe. Quoi qu'il en soit, ce que fait Maupeou en 1770, c'est qu'il fonctionnarise, il reprend l'ensemble des charges anciennement vénales, et va fonctionnariser les parlements. Donc, ils ne vivent plus de leurs charges, ils vivront d'un traitement de l'État, mais ils sont désormais entre les mains du pouvoir, et de la sorte, le roi met fin à la délégation et revient à la justice retenue, en fait. Parce que c'est intéressant parce qu'au fond, Maupeou fait une bonne fois pour toutes ce que le roi avait dû faire au cours de l'histoire, et notamment de l'histoire dont vient de parler le professeur Saint-Germain, à savoir le lit de justice que faisait le roi lorsque les parlements s'opposaient à l'enregistrement des lois du roi. Et effectivement, il y avait une vingtaine de cours et souveraines et de parlements à travers donc les différentes provinces de l'ancienne France. Le roi pouvait y mettre un terme par le lit de justice, c'est-à-dire lorsqu'il vient sous le ciel de lit, le trône qui lui est réservé dans chaque parlement, dans chaque cour souveraine, il y a ce trône vide qui rappelle l'origine de la délégation de pouvoir.
Tapissé et quand le roi de vient fleurs de s'asseoir, lys, magnifique meuble.
Oui, tout à fait. Et quand le roi vient s'asseoir sous ce lit de justice, alors la délégation cesse et le souverain parle.
D'accord.
Et cela. Il l'a fait de plus en plus sous les Bourbons face à cette contestation de l'absolutisme. Et c'est le dernier mot. Parce qu'effectivement, même sous l'Ancien Régime, ce que Bertrand nomme très justement comme l'avant-dernier mot des juges, eh bien, c'était montré par le fait que le lit de justice était le dernier mot. Alors il faut nous en souvenir aujourd'hui, à travers toute la métamorphose néo-capétienne, je dirais, qui a notamment été la volonté, à mon sens, du général de Gaulle dans la Ve République, le sait, de faire du chef de l'État un monarque républicain, de faire du suffrage universel qu'il parvient à introduire contre la classe politique en 1962 avec ce suffrage universel qui est l'équivalent du sacre.
C'est-à-dire
qu'il fait de lui quelque chose de plus que les petits seigneurs des partis. Et l'équivalent dans ce projet néo-capétien du lit de justice, c'est clairement, dans la volonté du général de Gaulle, l'article 11 dont vient de parler
le référendum,
mon collègue Bertrand Saint-Germain. Et donc, c'est le référendum. Et donc, lit de justice, c'est le référendum.
Mais oui, et très jolie comparaison.
Voilà ce qu'il nous faut faire aujourd'hui.
Oui. Alors justement, on va aborder cette troisième partie qui est « Que faire ?» Pour restaurer, et bon alors, restaurer le politique, d'accord, mais comment ? Déjà, vous dites, professeur Saint-Germain, que y a le recours au référendum, mais les juges eux-mêmes disent non, le Conseil constitutionnel dit non, c'est pas constitutionnel de tenir un référendum. Comment est-ce possible qu'ils puissent avancer alors, de telles prétentions ?
La première chose, avant toute autre chose, c'est la prise de conscience. Ça a été rappelé par le professeur Cornel de Boissezon. Il y a une prise de conscience qui est absolument nécessaire. Demain, en 2027 et par la suite, le politique doit tenir sa place, doit tenir son rôle. Le souverain juge doit revenir siéger dans ses cours. Voilà, pour rappeler que au-dessus des juges, il y a le juge suprême, le juge souverain. C'est d'ailleurs, on s'en souvient, ce qui était écrit dans le jugement des juges, du poète. Donc, le politique doit avoir conscience qu'un bras de fer sera à mener et qu'il doit reprendre son rôle, qu'il ne peut pas abandonner la décision au juge. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est avoir conscience qu'il faut entrer dans l'arène et que le combat devra être mené. Ensuite, on passe dans le comment. Ce qui va à l'appui du comment, c'est la ferme conscience, ce que je démontre et que tout juriste de bonne foi est obligé d'admettre, c'est que le juge n'a pas le dernier mot. Il y a toujours la possibilité de remettre en cause une décision de justice. Voilà. Alors, cela est plus ou moins complexe, plus ou moins difficile selon le niveau de la décision rendue.
Oui, parce qu'on dit on ne conteste pas une décision de justice d'ordinaire.
On peut la discuter de toute façon. Cela dépendra bien sûr du niveau de la décision rendue. Mmh. Une décision de première instance qui sera évidemment beaucoup plus facile de la dépasser qu'une décision de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, mais il y a la possibilité de reprendre la main, ne serait-ce que pour l'avenir. Parce que la grande faiblesse du juge, finalement, c'est notre crainte du juge. Parce que quand le juge rend une décision, ce n'est qu'un cas d'espèce qu'il tranche. C'est-à-dire que sa décision ne vaut pas, alors, ce que les juristes disent, ne vaut pas erga omnes, pas à l'égard de tous. Il tranche une affaire donnée dans un cadre donné.
Absolument.
Alors évidemment, lorsque c'est la décision du juge suprême, on se doute que dans une affaire semblable, il prendra la même décision.
Alors, si je peux, pour nos auditeurs, qui ne sont pas toujours familiers de vos raisonnements juridiques, je fais une petite comparaison, comme ça ils vont comprendre. Un juge ne juge pas un vol, il juge un voleur. Le vol, c'est le législateur qui estime que tel acte qui consiste à prendre une tablette de chocolat dans un hypermarché et de sortir sans payer, c'est un vol. C'est lui qui qualifie l'acte de vol. Le juge, il qualifie rien. Il voit arriver un voleur et il doit juger le voleur. Et c'est comme ça que, quelquefois, le juge prend une décision, un jugement en équité. Je pense à la cour de Poitiers, par exemple, où une dame avait été relaxée après avoir été prise à avoir volé des spaghettis. Mais c'était une femme en détresse et qui avait 3 enfants, qui ne savait pas comment les nourrir. Elle avait pris des affaires. Alors, cette femme avait été relaxée en vertu d'une pensée très ancienne, qui est celle de saint Thomas d'Aquin, qui non seulement permet de tuer en cas de légitime défense, mais aussi de voler en cas de famine totale. Et ça ne veut pas dire que ça n'était pas un vol. Donc, il y a une différence entre le législateur qui qualifie les actes, là, en l'occurrence de vol, et le juge qui ne fait pas ce travail-là, qui juge un voleur. Et là, vous dites la même chose. Oui. Là, j'ai donné cet exemple pour être très très clair vis-à-vis de nos éditeurs.
Et ça signifie concrètement que le juge va trancher une affaire donnée, mais il n'écrit pas la loi.
Voilà.
Et en fait, il n'écrit la loi que par faiblesse du législateur. C'est-à-dire, derrière le législateur, par faiblesse du souverain politique, qui admet, qui accepte que ce cas d'espèce fasse jurisprudence. Voilà.
Mais c'est de la faute du souverain et du législateur, puisque ils ont conditionné, ils ont adossé, ils ont enchaîné la Constitution à une déclaration générale, qui est celle des droits de l'homme et du citoyen. On ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire. Non, vous ne trouvez pas que c'est...
Ah oui, il y a...
C'est nous-mêmes qui...
Il n'y a pas de vide. La place prise par la juristocratie n'est que la place laissée libre par quelqu'un d'autre.
Oui, bien sûr.
En ne tranchant pas, le souverain laisse le soin à quelqu'un d'autre de trancher. Ouais. Voilà, là, donc la première, c'est pour ça que j'indiquais que la première clé est la prise de conscience du politique qu'il a en face de lui un adversaire qu'il doit ramener à sa juste place. Donc ça, la première chose, c'est la prise de conscience, donc, et cette garder à l'esprit que le juge n'a qu'un pouvoir d'avant-dernier mot. Après, quelle voie de réforme? Alors, schématiquement, pour moi, je les mettrais autour de 2 axes. Il y a celle qui touche aux juges eux-mêmes, c'est-à-dire au personnel judiciaire.
Donc, le recrutement des juges.
Le recrutement des juges. Et ensuite, peut-être des réformes techniques ou même très générale sur le fonctionnement de la justice. Alors,
commençons par le premier. Donc,
voilà, comme aujourd'hui débutent les oraux pour de la magistrature, je pense qu'un point clé aujourd'hui, c'est, je ne me ferai pas d'amis parmi les magistrats, mais c'est supprimer l'École nationale de la magistrature telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y ait une école professionnelle pour donner des recettes techniques à ceux qui deviendront juges, leur apprendre le fonctionnement d'un certain nombre de programmes informatiques, les règles techniques de relations, de transmission de dossiers d'une juridiction à l'autre. Tout cela sera absolument nécessaire et sera maintenu.
Mais alors comment les recrutait-on jadis ?
Eh bien, vous êtes philosophe, je crois que se rappelle d'un point finalement que nous savons tous sans le savoir, mais on nous parle beaucoup de la Grèce dans les études classiques. Mais en Grèce, à Athènes, à 18 ans, on pouvait être citoyen. C'est-à-dire qu'en étant citoyen à 18 ans, on était suffisamment mûr et âgé pour mourir pour la patrie, et on était suffisamment mûr et âgé pour voter les lois. Simplement, à Athènes, d'abord, il n'y a pas de juge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de professionnel de la justice. Il y a des citoyens à qui on délègue la fonction de juger des litiges entre citoyens.
L'équivalent des jurés, si on peut dire.
Voilà. Ces juges sont tirés au sort parmi les volontaires. Ce qu'on sait assez peu et ce qu'on rappelle peu souvent, c'est que pour pouvoir se présenter au tribunal de l'Élie, il faut 30 ans. C'est-à-dire, voter la loi qui s'applique à tous, on peut bien le faire à 18 ans, mais régler les litiges entre voisins, il en faut au moins 30.
D'accord.
Et j'irais que 30 ans à Athènes, compte tenu de l'espérance de vie, de la rugosité des mœurs et de la vie de l'époque, c'est au moins 40 ans aujourd'hui, à minima.
Mm-hmm.
Donc, une première clé serait de dire qu'on ne devient juge qu'à 40 ans. Et je crois qu'on devrait ajouter une quinzaine d'années d'expérience professionnelle. Alors, dans les métiers de la justice, d'une part, pas forcément uniquement, il peut être intéressant de s'ouvrir à des profils extérieurs, comme c'est le cas aujourd'hui pour le troisième concours. Mais
Allez-y, dites ce que c'est que le troisième concours.
C'est un concours qui, une voie d'accès à la magistrature qui est réservée à des personnes ayant une dizaine d'années d'expérience professionnelle et qui peuvent, une sorte de reconversion professionnelle.
Et qui les nomme là ? Ils passent quand même par l'ENM ?
Oui, ils passent par l'ENM, ils feront la même formation initiale. Ils ont eu des voies d'accès différentes, des épreuves différentes. Leur dossier doit être validé par l'administration. Et ils pourront rentrer. Leur nombre est relativement faible, mais il y en a chaque année. Ici, par cette exigence de 40 ans d'ancienneté et d'une quinzaine d'années de vie professionnelle, pour la majeure partie, ce qui remplacerait le premier concours aujourd'hui auquel on accède à 25 ans et sortant de Sciences Po, eh bien, si pour l'essentiel des magistrats, on demande 15 ans d'exercice professionnel dans le droit, finalement, tout ce magma idéologique sortant des IEP d'aujourd'hui n'accédera plus à la magistrature. Certains le feront peut-être, parce qu'ils auront eu une carrière dans des métiers juridiques, mais lorsqu'ils intégreront, déjà ils auront 40 ans, ils auront plus de bouteilles, plus de recul. Ils ne seront pas plus à droite, moins à gauche ou autre. Ils resteront tels qu'ils sont.
Peut-être plus de maturité, quand même.
Ça, c'est certain.
Parce que bon, les cheveux bleus et Free Palestine... Bon,
même si nous savons que la valeur n'attend point le nombre des années...
Voilà, c'est vrai. Oui. Mais la valeur seulement.
Mais ici, voilà. Ça, je pense... Et d'ailleurs, ce n'est pas un propos révolutionnaire. Les Grecs avaient déjà cette condition d'âge. Au Royaume-Uni, aujourd'hui, on ne devient pas juge avant l'âge de 40 ans. Vous voyez, donc c'est pas une proposition qui vient de nulle part, qui ne changerait finalement que peu de choses à l'organisation actuelle de la magistrature. On n'est pas sur une réforme. Vous voyez, on parle parfois de l'élection des juges. C'est une idée intéressante qui peut être envisagée.
Mais renvoie à Trasimac et aux socialistes. On élirait donc des bourgeois.
Ça fait partie des choses possibles, mais... En tout état de cause, l'élection des juges en France aujourd'hui ne peut pas se faire d'un simple claquement de doigts. Ce serait une réforme profonde, complexe, pas forcément inintéressante, mais loin d'être simple. Alors que la question du changement d'âge des juges pour une rentrée à l'école de la magistrature en deuxième partie de carrière, en quelque sorte, ça, ça peut se faire tout de suite, et ça aura un effet direct sur la dimension idéologique des magistrats. Voilà. Ça, on l'obtiendrait de suite.
Oui. Ça, c'est une piste, en effet. Et comment est-ce que vous pourriez... Alors, vous renoncez carrément à l'École nationale de la magistrature.
Et j'en fais une école purement technique,
ouais.
Qui accueille des gens qui ont déjà fait du droit, qui connaissent la justice, qui connaissent les règles juridiques, et une école technique où ils apprendront le maniement des outils informatiques, la transmission des dossiers, des règles de procédure.
Oui, voilà, quand même. Procédure pénale, faut... c'est pas le maniement de...
Non, c'est
pas un tableau Excel, quoi.
Une école technique et professionnelle, pas une école de formation générale, comme elle l'est aujourd'hui. Il y aurait certainement à faire aussi par rapport au personnel enseignant et au cadre dirigeant de l'école. Et d'ailleurs, au cadre dirigeant de la magistrature dans son ensemble. Est-ce que le fait d'avoir été magistrat, est-ce que ça donne une quelconque compétence pour diriger une école ? Ou pour diriger l'administration du ministère ? Je suis loin d'en être certain. Il y a une co-gestion aujourd'hui du ministère par les magistrats, c'est-à-dire par les syndicats.
Oui.
Laissons les juges juger. Et laissons les administrateurs administrer. Vous voyez, déjà, donc, sur le personnel, s'engager dans cette voie de la réforme donc, des modalités d'accès, mais simplement au niveau de l'âge, de l'expérience, cela couperait très largement la dimension idéologique marquée qui est celle des jeunes magistrats aujourd'hui. Voilà.
Oui. Vous avez une idée, professeur Coronel de Boisfaison?
Je voudrais ajouter, je soutiens entièrement le projet de Bertrand Saint-Germain, qui me semble plein de bon sens et riche d'exemples à la fois historiques et géographiques. Comme le disait Frédéric Leplay, c'est la méthode comparative à la fois de nos voisins et de ce qui fut bon dans notre passé qui doit nous guider. Il appelait la méthode d'observation et de comparaison. Je dirais un mot historique avant de vous laisser continuer qu'on retrouve d'ailleurs dans l'excellent livre de mon collègue, à savoir dès les origines de la représentation du droit et de la justice dans la civilisation européenne. Si je me réfère à une œuvre dont il a été en partie question cet été, alors cet été c'était de l'Odyssée que l'on parlait, mais dans l'Iliade, le premier livre du diptyque d'Homère, au chant 18, au vers 497 à 508, il y a la première représentation de ce qu'est la justice pour les anciens, c'est la description du bouclier d'Achille. Et sur le bouclier d'Achille, il y a une scène d'une cité harmonieuse, et au centre de la cité harmonieuse, il y a un jugement. Et ce jugement est celui qui est fait par les anciens en présence du peuple qui peut s'exprimer acclame ou critique le jugement, le dikazain des anciens. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, cette vision fondatrice. C'est-à-dire que effectivement, la justice est au centre de la cité, mais elle est administrée par des anciens. Donc, l'idée, effectivement, d'avoir une dimension... gérontocratique au meilleur sens du terme, une dimension de sagesse me semble tout à fait traditionnelle dans la civilisation européenne dont nous sommes les enfants. Et je constate aussi que le peuple est présent et intervient. Donc il y a cette idée que en fait les anciens sont là pour exprimer les mœurs du peuple. Et on retrouve ça à Rome, puisque à Rome le premier nom du droit c'est le mos. Au pluriel mores, qui donne le mot mœurs, avec cette idée que donc le droit est ce qui vient des mœurs. Et on connaît l'appellation plus générale du mos, c'est le mos maiorum, c'est-à-dire les mœurs des anciens, la coutume des ancêtres. Donc, oui, le lien au peuple et à ceux qui sont au sein du peuple, les anciens représentants. Je dirais les mœurs, c'est quelque chose d'essentiel. À Rome, du reste, comme le rappelle Bertrand Saint-Germain dans son ouvrage, à l'origine, le jugement à Rome est fait par un juré, le iudex. Le praetor, le préteur, ne fait que qualifier le cas que les parties viennent lui présenter, et c'est ensuite un tiers, un citoyen de bonne mœurs, qui va trancher, le iudex, donc le juré. On sait la fortune, ensuite au Moyen-Âge, de cette catégorie, le juré, le jury. C'est resté le cas en Angleterre, parce que l'Angleterre est un conservatoire paradoxal à certains égards de l'ancienne Europe, mais dans toute l'ancienne chrétienté, les jugements sont paritaires. Les clercs sont jugés par les clercs, la noblesse par la noblesse, le tiers-état par les hommes jugeant au moins dans les bonnes villes, etc. Donc cette idée que ceux qui doivent dire le droit doivent représenter les bonnes mœurs et les mœurs traditionnelles au sein de la civilisation européenne est une constante. Et la nouveauté, c'est au contraire l'idée que la République serait coupée du peuple. Le vieil adage de Cicéron, Societas civilis sive res publica, la société des citoyens n'est rien d'autre que la chose publique n'est rien d'autre que la société des citoyens, a été confisquée très exactement au moment où l'on passe en France de la monarchie à ce qui va prendre le nom de République pour l'idéologiser. Et aujourd'hui, c'est au nom de ces valeurs républicaines que nos contemporains ne connaissent que trop dans leurs effets toxiques, que l'on a coupé en fait le jugement de son enracinement dans les mœurs et dans en fait les traditions et l'intérêt du peuple.
Merci pour ce voyage dans les hauteurs. Ça, c'est une chose intéressante, bien sûr, mais on pourrait essayer d'explorer une deuxième piste. En attendant d'aller aussi loin et de monter aussi haut, qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat avec les juges ? Mais je suggère, pour qu'on se repose un peu, qu'on prenne un peu d'oxygène, que l'on se fasse une toute petite page musicale. Nous reprenons tout de suite parce que vous pourriez croire que c'est le générique de fin. Non, il ne s'agit pas du générique de fin, mais d'un extrait d'une pièce pour harpe que j'ai écrite et qui sert effectivement au générique de l'émission. Mais rassurez-vous, il n'est que 15h17. Nous sommes encore ensemble pour une petite dizaine de minutes. La deuxième piste, alors évidemment, elle est peut-être plus... Je ne dis pas que la première n'est que théorique, c'est pas vrai. Mais disons, elle est programmatique, elle réclame une certaine marge quand même, chronologique, pourquoi pas, pour la mettre en œuvre. Alors que là, imaginons donc qu'une véritable alternance s'impose au mois de mai, qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat ?
Alors, j'y reviens sur l'exemple précédent que nous avons donné. La question de la limite d'âge et des modalités d'accès serait sans doute la plus rapide et la plus simple à mettre en œuvre parce qu'elle n'appellerait rien d'autre qu'une réforme technique des modalités d'accès.
Ouais.
Bah, ensuite, finalement, je crois qu'il n'est pas sain, qu'il n'est pas pertinent de croire que ce sera le grand soir et que tout va se faire d'un claquement de doigts et qu'on va remplacer la justice. On a un cadre qui nous est donné. Qu'il est difficile de modifier en claquant dans les doigts. Voilà. Mettre en place l'élection des juges, pourquoi pas ? Ça se fait ailleurs, ça se fait aux États-Unis, ça se fait en partie en Suisse. Mais simplement, si on prend l'exemple des Américains, qui est paradoxalement celui qu'on connaît le mieux ou qu'on croit le mieux connaître, c'est un système qui est entièrement différent, qui repose sur une distinction entre les règles fédérales et les règles fédérées, des règles locales.
Ouais,
voilà. Donc, et ça ne pourrait pas se faire en un claquement de doigts. Typiquement, parler d'élection des juges, ça veut dire qu'ils peuvent être révoqués. C'est inconciliable avec le statut de fonctionnaire d'État.
Oui.
révoquer un juge qui jugerait mal, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut une procédure disciplinaire pour l'enlever de la fonction publique? Est-ce qu'il faut simplement le déplacer, ce qui se fait aujourd'hui pour beaucoup de juges? Voilà, donc c'est pas simple. En revanche, donc, on pourrait commencer à favoriser la mise en concurrence du juge. Ce qui tend à se faire un petit peu, c'est finalement la possibilité de faire trancher les litiges sans les juges ou en dehors d'eux. C'est-à-dire, et finalement, ce n'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est le recours à la médiation, à l'arbitrage.
Il y a déjà des médiateurs.
Ça se fait, mais ça se fait quand même essentiellement pour les grands, les puissants ou les grandes entreprises. Il est rare, parce qu'on n'a pas voulu non plus toujours y donner le poids et la référence, que dans les litiges entre particuliers, on ait ce type de solution. Dans le cadre de divorce, de garde des enfants, il est très rare qu'on fasse appel à des arbitres ou des conciliateurs. Et surtout, il est très rare que ceux-ci arrivent à accorder les gens. Mmh. Là, je prends un exemple où, effectivement, on est au paroxysme des tensions interpersonnelles, et c'est difficile. Mmh. Mais sur plein de ces litiges, l'exemple romain rappelé par le professeur de Boissezon tout à l'heure est très net. On n'a pas besoin du juge. Le judex n'est pas un juge. C'est celui qui tranche l'affaire, ce qui n'est pas exactement pareil. Il tranche l'affaire qui lui a été amenée par les parties. Il a entendu les arguments des parties et il juge sur ce qui lui semble, sur ce qui doit être. Et ça, c'est un phénomène qui pourrait largement être multiplié. On pourrait avoir des listes de jurisconsultes, de personnes choisies au niveau du département ou du canton, de l'arrondissement, reconnues, ayant des compétences juridiques et qui seraient choisies par les justiciables. Et
donc élus.
Choisis, élus au sens d'éligérer, choisir.
Oui,
mais
oui.
Pour une affaire donnée, je vais voir un tel parce que j'ai confiance en lui et qui va trancher notre litige. Cela pourrait, et cela n'exclut pas l'avocat de l'affaire, c'est tout à fait conciliable avec ce qui existe aujourd'hui, mais on pourrait gagner du temps. Les grandes entreprises, souvent, dans leurs litiges, vont trancher ainsi, y compris quand il y a des litiges relatifs à un licenciement, sur des cadres, on arrive à se mettre autour de la table et à négocier et à juger en droit. Ce qui permet aussi aux entreprises de garder le secret sur l'arrangement qui a été fait avec leur ancien employé et d'éviter de donner de la publicité pour d'autres affaires. Mais ça, typiquement, cette mise en concurrence, mais ouverte à tous, du fait de juger, est possible. Et ça repose sur une idée assez simple, c'est que finalement, juger, trancher un litige, nul besoin d'être professionnel pour cela. L'histoire a quantité d'exemples qui nous montrent qu'on peut trancher un litige en donnant satisfaction aux parties, au moins pour partie d'ailleurs, sans être un juge professionnel.
Oui, mais alors si vous tranchez un litige en dehors de, ou contre la loi, ça devient compliqué là quand même.
Si... la possibilité, alors ça peut se faire dans le cadre de la loi, ensuite on est dans le cadre technique dans lequel on pourrait faire ça, mais cela a donné satisfaction ailleurs pendant des siècles. Donc c'est pas totalement impossible. Aujourd'hui, la perspective de procédures qui dureront des années n'est pas non plus intéressante.
Oui, bien sûr.
Mais voilà, donc ici, le cadre général, c'est que le politique fasse du politique et s'occupe de son métier, reprenne la main, réaffirme les règles de droit. Il y a des possibilités tirées de l'histoire. Alors, je sais que le professeur Cornel de Boissezon m'a reproché d'avoir peut-être un peu trop les yeux de chimène pour certaines créations révolutionnaires.
Alors, quelle horreur.
non pas toutes, mais je crois que sur la justice, les révolutionnaires, et notamment les élus du tiers-État qui étaient 600, près de 500 d'entre eux étaient d'anciens gens de justice. Et je crois qu'ils avaient une vision des dysfonctionnements de la justice d'Ancien Régime assez nette, et eux-mêmes mettaient en avant, alors ce ne sera sans doute pas réalisé au cours de la Révolution, mais mettaient en avant la nécessité des procédures de conciliation, mettaient en avant le dernier mot du législateur sur le juge, avec ce qu'on appelait le référé législatif, ce sont autant de systèmes dont on peut s'inspirer. Donc, que le législateur, c'est-à-dire le souverain, retrouve sa place, qu'on refasse des juges, de véritables juges, dignes de ce nom, avec une maturité, une expérience leur mettant de trancher, et ensuite favoriser finalement des mécanismes permettant d'assurer la conciliation. En allant dans ces trois voies, on retrouverait un peu de sérénité, je crois, dans le fonctionnement de la justice.
Alors, j'ai envie de faire un peu l'avocat, si je puis m'exprimer ainsi, de notre auditoire, en vous posant une question à brûle-pourpoint, j'en ai bien conscience. Mais comment faire face à des juges qui accumulent les scandales qui éclatent sans cesse régulièrement en France, puisque la police fait son travail, présente devant un délinquant, voire un criminel, un juge qui le relâche aussitôt, et donc la police travaille pour rien, enfin tourne en rond. Comment fait-on là, dans l'immédiat ?
Il faudra que je revienne pour en reparler.
D'accord.
Mais avec l'Observatoire des décisions de justice, nous avons beaucoup travaillé sur cette question. Il y a aujourd'hui un véritable problème du jugement des juges par eux-mêmes. Le jugement des juges par le Conseil supérieur de la magistrature pose problème. Alors, est-ce qu'il faudrait élargir la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour faire une place peut-être à des représentants d'associations de victimes ? Est-ce qu'il y a vraiment lieu de faire élire ces juges sur des listes syndicales ? Dans le projet de réforme du Conseil supérieur de magistrature italien au printemps dernier, les juges membres du CSM auraient dû être désignés par tirage au sort parmi les juges volontaires. Vous voyez, il y a des pistes qui permettent de casser cette oligarchie qui aboutit à faire des juges des irresponsables.
Et à propos de juges irresponsables, alors là je cite un autre scandale, ce fameux juge qui sur internet vendait sa fille de 13 ans et qui a été assez faiblement sanctionné. Alors, il a eu 1000 euros d'amende. Et...
Alors, il y a eu deux choses. Alors il a prétendu que c'était une sorte de jeu auquel il jouait. Bon, jeu bizarre. Il a effectivement été faiblement sanctionné pénalement. Il a été révoqué de la magistrature.
Oui, c'est quand même le moins
voilà,
qu'on puisse faire.
Voilà, il fait partie des 5 révoqués depuis 15 ans.
Oui, ça fait pas grand monde. Bon, écoutez, merci beaucoup, cher professeur. Je parle au pluriel. Mais effectivement, votre proposition là de parler d'entrer dans ce détail, ce dernier détail, je la prends pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, vous reviendrez quand vous voudrez. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mon invitation, et je dis à nos téléspectateurs et auditeurs. Au mois prochain, 5 octobre, pareil, à 14h.
D'entendre le libre journal d'Yves Marie-Adeline diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 7 septembre 2026 de 14h à 15h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.